Bonjour à tous, je suis Alice Haché, je vous souhaite la bienvenue dans l'empreinte. Nous allons essayer de comprendre ensemble comment les marques d'aujourd'hui s'engagent ou non pour notre planète. Chaque semaine, je reçois donc des start-upers, des PDG de grands groupes ou encore des directeurs de la RSE qui m'expliquent comment leur entreprise s'engage pour porter une révolution de l'impact sur notre planète. Et avant de commencer cet épisode, je souhaite vous présenter le nouveau partenaire de l'Empreinte. Dans ce nouvel épisode de l'Empreinte, j'ai le plaisir de recevoir Gaïa Witz, une des associées de chez De Gaulle et Florence, l'un des plus grands cabinets d'avocats d'affaires basés à Paris et le spécialiste sur les sujets de transition écologique et de tous les sujets RSE. C'est bien ça?
Exact.
Je suis ravie de t'accueillir dans l'Empreinte, Gaïa.
Merci beaucoup, je suis ravie d'être là.
J'ai envie que tu me racontes, toi déjà, qui tu es et quel est ton parcours, pour un peu apprendre à te connaître.
Très bien. Moi, je m'appelle Gaïa. Je suis associée au cabinet De Gaulle Florence et associée depuis plusieurs années et j'y travaille depuis 13 ans comme avocat. Je suis avocat en droit public des affaires. J'interviens principalement pour des clients dans le domaine des énergies renouvelables. Et puis, depuis quelques années maintenant, avec De Gaulle et De Gaulle Florence et associés, on publie chaque année un observatoire. Un observatoire qui réunit des analyses à la fois en matière RSE et aussi en matière d'énergie renouvelable. Donc voilà, je suis l'une de celles qui contribuent à faire cet observatoire chaque année. Et ça consiste à analyser l'état de la réglementation, de la législation, mais aussi de la jurisprudence, c'est-à-dire des décisions de justice qui sont rendues ou en cours d'être rendues sur ces deux thématiques que sont la politique RSE des entreprises et le développement des énergies renouvelables en France. Des questions un peu liées, forcément.
Forcément, mais ça m'intéresse. Parce que ça fait combien de temps que tu y es, toi, que tu t'occupes de ces sujets-là?
Ça fait depuis que j'ai commencé, en fait, depuis 13 ans.
Ah, donc depuis 13 ans, tu as dû voir une évolution.
Ouais, complètement. C'est vrai que moi, je suis arrivée à un moment dans ce milieu où les énergies renouvelables, c'était vraiment en plein boom.
Mais à l'époque, c'était pour une prise de conscience ou c'était pas encore vraiment au cœur des enjeux?
Tu sais, les politiques en matière d'énergie renouvelable, elles nous viennent des lois de Grenelle depuis les années 2000. Donc, ce sont ces lois-là qui ont un peu favorisé l'émergence des énergies renouvelables en France, même si ça existait déjà, c'était à l'état très embryonnaire. Ces lois, elles ont fait que les projets ont pris une autre dimension. Et il y a vraiment des belles entreprises françaises qui ont développé de plus en plus de projets. Et puis, évidemment, là-dessus, s'est greffé tout ce courant et ce législatif sur la loi RSE pour les entreprises. Donc ça, finalement, aujourd'hui, ces deux sujets, ils convergent.
Et est-ce que le cabinet a un rôle, justement, pour encourager ou pousser ou même accompagner les entreprises?
Oui, bien sûr.
Transition.
Oui, bien sûr. Nous, on accompagne tous les jours des entreprises dans ces thématiques, soit parce qu'elles mettent en place leur politique RSE, qu'elles ont des sujets, des problématiques qui sont en lien avec ça, avec cette politique-là. Et aussi, on a une très forte activité dans le domaine des énergies renouvelables. On accompagne tous les jours des entreprises, soit dans le développement de leurs projets, soit dans le financement, les aider à aller chercher leur financement pour développer des projets, ou encore des entreprises, par exemple, qui, dans le cadre de leur politique RSE, ont envie de contribuer à ce développement-là des énergies vertes, par exemple en verdissant leur consommation. Nous, on intervient au stade de la préparation des contrats, dans ce cadre-là.
Donc, c'est complémentaire avec une agence de conseil?
Oui, je ne sais pas comment interviendraient des agences de conseil. Enfin, il y a plusieurs types de conseils. En fait, ces entreprises, elles ont besoin d'être accompagnées sur le volet juridique et nous, on est là pour ça. Elles ont souvent accompagné sur un volet plus financier, comment monter des projets, comment mobiliser des capitaux pour faire émerger des projets qui seront rentables et qui auront du sens. Et puis, ils ont généralement des conseillers techniques s'ils n'ont pas les compétences en interne, évidemment.
Et aujourd'hui, quels sont les freins que rencontrent principalement les entreprises, du coup, au moins que tu accompagnes, toi, dans le...
Dans ce domaine-là, principalement, dans le domaine des énergies renouvelables, les freins, ils sont multiples aujourd'hui.
J'ai l'impression qu'il y en a toujours des nouveaux qui émergent.
Oui, c'est vrai. Alors, c'est vrai que les lois et les règlements tendent quand même beaucoup. Ils vont plutôt aujourd'hui dans le sens d'un accompagnement des projets. On a l'impression quand même que depuis, en tout cas moi, depuis que je travaille dans ce milieu-là, j'ai vu une évolution de ces lois Et on voit bien que les développeurs de projets d'énergie ont un tas d'outils presque maintenant pour développer leurs projets. Donc ça c'est
encourageant.
Complètement. Ouais. Vraiment, on voit que les progrès...
Aujourd'hui, on peut se lancer. Ça, pour tous les jeunes entrepreneurs qui voudraient se lancer, au moins, il y a de la place.
Ah, c'est vraiment porteur. Et encore une fois, il y a vraiment des entreprises indépendantes françaises. Alors, il y a aussi des majeures. Hein. Il y a des très grosses entreprises dont on connaît tous les noms et qui marchent bien sur ces secteurs-là. Il y a aussi des entreprises un peu plus indépendantes, petites, moyennes entreprises, qui développent aussi des projets parfois innovants, parfois un peu plus classiques, type parc éolien ou parc photovoltaïque, et puis d'autres avec plein d'innovations. Donc moi, je pense qu'il y a de la place pour eux. Après, il y a forcément des freins. En France, on a un beau territoire. On a un territoire qui n'est pas immense comparé à d'autres territoires dans le monde. Cette année, par exemple, notre observatoire, on a voulu comparer le développement en France à d'autres pays. On se rend compte qu'en Arabie Saoudite, par exemple, ils ont des terrains gigantesques pour faire du photovoltaïque sur des milliers de mètres carrés. C'est pas sûr qu'en France, on ait les terrains pour faire ça. Donc,
En France, aujourd'hui, c'est laquelle la première énergie renouvelable, finalement? Parce que j'ai l'impression que j'ai...
Ah, la première, ouais. en termes de capacité.
Ouais.
Je dirais que ça se dispute hein, entre l'éolien et le photovoltaïque. Alors, l'éolien, tu sais probablement que ce qui va vraiment faire changer les choses, c'est probablement les projets offshore, ceux qui sont en mer, qui ont beaucoup de mal à sortir, mais qui représentent...
Ils font débat, et puis ça fait débat aujourd'hui. Est-ce que le cabinet fait face aussi à ces débats-là ou pas?
Évidemment, tous les jours, bien sûr.
Parce que là, c'est au cœur des sujets. Hein,
ah oui, non, là, c'est sûr que c'est principalement ça. C'est ce que j'allais y venir. Le principal frein que je vois aujourd'hui, ou en tout cas l'un des principaux freins à combattre, c'est celui de l'acceptation dans les territoires. Forcément, tout le monde n'a pas envie d'avoir une éolienne au fond de son jardin.
Moi, c'est bizarre, mais j'en parle avec ma famille. Moi, je trouve ça joli. Est-ce que je suis la seule? Je vais me faire embêter par les auditeurs.
Non, je pense pas que tu sois la seule.
Mais j'aime bien. Enfin, je trouve ça joli.
Non, je suis sûre que tu n'es pas la seule. Je suis sûre qu'il y a plein de gens qui trouvent ça joli. Après, les technologies, elles évoluent aussi. Elles font en sorte d'avoir des designs qui sont peut-être plus respectueux de l'environnement. Mais voilà, ça a tout un tas d'impacts.
C'est ça.
Bien sûr, il faut analyser. Mais il faut savoir que les développeurs de projets éoliens, que ça soit sur terre ou en mer, ils sont quand même, et c'est là-dessus que nous, juristes, on les accompagne très régulièrement, ils sont quand même soumis à une série de réglementations. Et avant de sortir un parc éolien, on fait ce qu'on appelle une étude d'impact, c'est-à-dire que le développeur, accompagné de bureaux d'études, va vraiment analyser la situation où il veut s'implanter. Et là, il va regarder non seulement le terrain, comment il est constitué, mais aussi l'écosystème qu'il y a autour, donc les espèces qui sont présentes sur le site. S'il y a des espèces protégées, il est tenu de le déclarer et il peut mettre en place des mesures qu'on appelle des mesures parfois compensatoires, ou parfois il en vient à la conclusion que c'est pas là qu'il faut s'installer parce qu'on est en présence d'une espèce beaucoup trop rare et trop protégée et que c'est pas à cet endroit-là qu'on va s'implanter. Il a aussi, cette étude d'impact, elle porte aussi sur le paysage. Donc les développeurs sont tenus de faire une analyse de l'implantation des éoliennes dans le paysage où ils souhaitent s'implanter. Par exemple, ça se concrétise par des photomontages. On va faire des prises de vue en représentant, en figurant les éoliennes dans leur paysage concret. Et puis, on va analyser si on est trop proche en co-visibilité, par exemple, d'un monument classé, si on est en site inscrit. Donc,
tout ça ne dit pas assez, peut-être.
Non, on ne le dit pas assez. Tout ça, ça prend souvent plus d'une année. Donc, c'est un temps très long. C'est un temps vraiment d'analyse avec des professionnels. Et il y a aussi, à la fin de cette étude d'impact, il y a aussi ce qu'on appelle la participation du public. C'est une enquête publique qui est réalisée dans les villages ou dans les villes.
Comme quand on met les aéroports.
Exactement. C'est exactement la même réglementation.
Sauf que là, on pollue, par contre, en plus.
Mais parfois, on a des aéroports avec des centrales proximité. Alors, pas de l'éolien, mais de plus en plus du photovoltaïque.
Alors là, les habitants, ils doivent être ravis. Non, mais oui, en fait, ce qui est vrai, c'est que finalement, comme d'habitude, il faut embarquer tout le monde.
Oui,
c'est un enjeu social, sociétal. C'est pour ça qu'on parle de RSE, on parle d'écologie et d'hommes, parce que c'est complètement lié.
Exactement.
Et ça, je pense que tu le ressens dans tous tes projets.
Bien sûr, et en plus, c'est sûr que ça impacte, ce sont des projets qui impactent les populations qui vivent à proximité de ces parcs. Bien sûr que ce sont des enjeux sociétaux. Et c'est pour cela, d'ailleurs, qu'il y a un garde-fou. Le garde-fou, c'est aujourd'hui le juge français, puisqu'il est saisi tous les jours, enfin régulièrement en tout cas, de recours contre les autorisations des parcs éoliens, parce que les populations, elles ont le droit de dire, parce que pour une raison ou pour une autre, que voilà, elles combattent une autorisation donnée à un projet à tel endroit. Et puis ensuite, il y a un débat qui prend place devant un juge. Ce sont toutes ces décisions-là, par exemple, que dans notre observatoire, nous avons analysées au cours de l'année dernière.
Donc ça, je pense que c'est un des gros sujets que vous avez actuellement. Il y en a d'autres
complètement
que vous traitez.
C'est un des gros sujets qu'on a actuellement.
Vu les actualités, je pense que ça doit être même peut-être le premier. Hein.
Ouais, c'est principalement celui-ci. On accompagne vraiment nos clients dans tout ce processus-là, que ça soit au stade de l'analyse des lieux, que ça soit au stade d'aller rechercher les autorisations, expliquer auprès de la préfecture.
On aurait quoi comme alternative? C'est ça. Enfin, moi, c'est des questions que je me pose et que je pense que tous mes auditeurs se posent. C'est finalement, on aurait quoi d'autre comme alternative pour une énergie propre?
Il va falloir trouver un équilibre, c'est certain. Et c'est ce qu'on appelle le mixte énergétique. Trouver un équilibre entre les ressources de l'énergie atomique, nucléaire, et puis ce qui provient des énergies renouvelables. Ouais, c'est sûr. C'est ça. C'est cet équilibre qu'il va falloir trouver. Et aujourd'hui, ça passe par un développement des énergies renouvelables, parce qu'on a beaucoup misé sur le nucléaire, et c'est important. On ne pourra pas continuer à bénéficier du nucléaire, de l'énergie nucléaire. Mais il faut la contrebalancer, peut-être. Et parce qu'on va vers une société qui utilise de plus en plus d'énergie, alors il faut trouver des solutions pour ne pas dépendre entièrement du nucléaire ou des autres énergies fossiles qui, bien souvent, sont importées.
Et quels sont les autres sujets que tu accompagnes là en ce moment, par exemple?
Honnêtement, c'est principalement ça.
Ça m'étonne pas trop. Hein.
Au quotidien, c'est ça.
En plus, c'est votre cœur de métier, la transition énergétique. Donc finalement.
Oui, alors non, il y a vraiment un autre sujet qui en passe. Mais il y en a plein des sujets. Mais peut-être il y a un sujet qui est important et qui fait le lien entre les énergies renouvelables et les entreprises. J'ai commencé à en parler tout à l'heure. C'est celui de ces entreprises qui cherchent, elles, à verdir leur consommation.
C'est-à-dire, oui, en plus, c'est très drôle parce que j'allais revenir sur ce terme-là. Verdir sa consommation, ça veut dire quoi?
Eh bien, évidemment, les entreprises sont des énormes consommateurs. Il y a aussi des entreprises qu'on dit qui sont d'autant plus consommatrices qu'elles ont une activité très énergivore. Par exemple, les grands centres commerciaux, par exemple, évidemment, les grands centres, les grandes surfaces, ou même des industries. Hein. Il y a des industries qui sont très énergivores. Eh bien, aujourd'hui, il y a un certain nombre d'industriels et d'entreprises qui réfléchissent à utiliser une part de leur consommation tirée de l'énergie verte, tirée de l'énergie renouvelable. Et parfois même, elles vont plus loin et elles vont jusqu'à chercher à consommer au plus proche, à consommer.
Même peut-être être autosuffisants, non? Des bâtiments oui. Qui pourraient s'alimenter tout seuls, non?
Effectivement, c'est ce qu'on appelle l'autoconsommation.
Ouais.
L'autoconsommation, effectivement, c'est le principe que, par exemple, une grande surface va produire sur son toit, grâce à des panneaux solaires, ouais. De l'énergie qu'elle va directement utiliser à l'endroit même
j'avais
où elle est produite.
J'avais vu ça à l'étranger, je ne sais plus quel bâtiment faisait ça, et j'avais trouvé ça génial, bien quoi. Si on pouvait même mettre ça
bien
à l'échelle
sûr.
De tous les...
Il y en a de plus en plus, mais aujourd'hui, il y a une réglementation là-dessus. Les bâtiments tertiaires neufs ont une obligation désormais de s'accompagner d'un procédé, soit de production d'énergie renouvelable, soit de décarbonation. Donc,
parce que j'imagine que c'est un coût en plus pour les entreprises, c'est un investissement, non?
Oui, c'est un coût, mais... Pour un certain nombre d'entreprises, elles y voient vraiment un avantage. D'une part, parce que ça entre dans leur politique RSE, parce que ce sont des sujets qui les concernent. Donc aujourd'hui, elles peuvent effectivement avoir ce principe-là d'autoconsommation, ou bien par le biais de ce qu'on appelle des contrats, des CPPA, des contrats d'achat d'électricité finalement, elles font des véritables partenariats avec des producteurs dont c'est le métier de produire de l'énergie renouvelable. Et elles achètent, au lieu d'acheter comme n'importe quel consommateur auprès des plus grands fournisseurs, elles s'allient avec un producteur qui va leur assurer une origine de propriété des énergies renouvelables, avec parfois même des garanties d'origine. Donc ça prouve bien que chaque mégawattheure qui est produit provient de telle centrale à tel endroit. Donc on a comme ça une traçabilité de l'électricité. Et donc vous avez des grandes entreprises aujourd'hui, depuis quelques années maintenant, qui contractualisent, donc qui signent des contrats, ces fameux CPPA, pour avoir une part de leur énergie, une part de leur consommation, dont elles savent qu'elle provient des énergies renouvelables et parfois même qu'elles sont tracées depuis tel parc éolien, son électricité, elle est utilisée à cet endroit-là. Voilà.
Donc aujourd'hui, la RSE, ça on le sait tous, c'est vraiment au centre des politiques stratégiques, même des entreprises. C'est une obligation, c'est devenu quelque chose d'obligatoire même. Ça, avant, ça n'était pas, non ouais. Pour beaucoup, maintenant, je pense que c'est devenu incontournable. Ouais. Il y a une loi, non?
Oui, tout à fait. Il y a un corpus légal, effectivement. Il y a une première loi de 2017 relative au devoir de vigilance. Cette première loi, elle a fixé la règle que toute entreprise qui emploie plus de 5000 personnes doit établir et mettre en œuvre un plan de vigilance. Le plan de vigilance, ce sont les mesures qui sont propres à identifier les risques, à prévenir les risques, les atteintes graves envers les droits, les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes. Ça, c'est le premier maillon, c'est la loi de 2017. Et puis plus récemment, il y a eu la loi de 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises. C'est la loi PACTE, qui est bien connue sous ce nom-là.
Les entreprises à mission, etc. qui sont
exactement,
nées,
exactement, c'est ça. Donc il y a des entreprises à la fois qui se définissent une raison d'être, et il y a celles qui vont un petit peu plus loin, qui l'inscrivent dans leur statut, et puis il y a celles encore qui se donnent le statut de société à mission, donc c'est inscrit dans leur statut, et elles se soumettent
et
à un certain
nombre. Et ça, le
cabinet
est en charge de ça aussi, de les accompagner là-dessus.
Oui, on accompagne des entreprises aussi sur ces sujets-là. Ouais, tout à fait.
Ça peut être intéressant pour nos auditeurs s'il y en a qui cherchent à le devenir,
oui,
peut-être.
Oui, complètement. Ouais,
c'est
complètement.
Quand même beaucoup de,
ouais, ouais, tout à fait.
De chefs d'entreprise qui nous écoutent.
Oui, oui. Et puis on suit de près. Ça aussi, c'était le deuxième volet de notre observatoire cette année. C'était, tu sais, que par rapport à ces sociétés à mission et ce plan de vigilance, il y a un certain nombre de saisines qui peuvent être faites par des personnes intéressées, des ONG souvent, qui peuvent saisir un juge au motif qu'une entreprise ne respecterait pas ou n'aurait pas adopté son plan de vigilance ou ne respecterait pas son plan de vigilance. Donc ça, c'est aussi...
Il y a déjà eu le cas, là ou...
Alors, il y a eu quelques saisines. On a noté 5 mises en demeure en 2019 et puis ça a encore grandi en 2020. J'ai plus les chiffres en tête, mais oui, il y a des saisines régulièrement, là, depuis 2 ans.
Comment ça se passe? C'est un audit qui est fait quand c'est comme ça?
Alors, elles saisissent un juge. D'abord, ce qu'on appelle les plaignants ou les requérants saisissent l'entreprise d'une mise en demeure en lui demandant de se mettre en demeure par rapport à soit à son plan de vigilance, soit à un non-respect d'une liberté ou d'une atteinte. Et si l'entreprise ne met pas en œuvre les moyens pour le respecter, alors là, les requérants peuvent porter l'affaire devant un juge. Donc, par exemple, en juillet 2020, ça c'est un exemple qu'on a pris dans notre observatoire, en juillet 2020, plusieurs ONG ont fait une mise en demeure contre Suez, une des filiales de Suez, pour que l'entreprise modifie son plan pour faire face à des défaillances dans le cadre de l'approvisionnement d'un projet au Chili, d'approvisionnement en eau au Chili. Donc voilà, pour l'instant, c'est loin d'être jugé, mais c'est eu un premier exemple de saisine. Voilà. Il y en a eu d'autres cette année contre Casino, par exemple. En septembre 2020, il y a plusieurs associations là qui ont mis en demeure le groupe Casino à raison, alors elles allèguent, on ne sait pas encore, mais d'opérations de déforestation qui auraient eu lieu en mars 2021 et elles l'ont assigné devant le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
D'accord, et quand ça met du temps à être jugé ces affaires-là?
Oui, ça va mettre du temps, oui, parce que évidemment la société qui est mise en cause, évidemment, elle va avoir à se défendre, à présenter aussi ses observations, présenter des preuves. En plus, aujourd'hui, il y a encore un débat sur le tribunal compétent pour juger ces affaires en France. Donc, c'est un débat judiciaire un peu technique. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais ouais, ça va prendre du temps, c'est certain.
Est-ce que tu aurais des choses à nous évoquer qu'on n'aurait pas abordées ensemble? T'aimerais, je sais pas, un message à faire passer peut-être à nos auditeurs.
Je sais pas, un message à faire passer. Non, si, bah peut-être il faut revenir quand même sur les chiffres de ces raisons d'être. Je pense que c'est important et c'est sous le message que j'ai entendu en écoutant vos précédents podcasts. J'ai l'impression que c'est, moi je trouve qu'il y a une vraie tendance des entreprises à se définir cette raison d'être. Et nous, on l'a constaté, on a constaté qu'il y a 29 entreprises du CAC 40 aujourd'hui qui revendiquent une raison d'être en 2021. Donc, c'est 85% des entreprises du CAC 40. C'est assez important.
Et les 15 autres, qu'est-ce qu'ils font?
Ouais, mais 85% en 2021 contre 50% en 2020.
Ouais, c'est vrai. Mais on a tous une raison. Enfin, quand on crée une entreprise, on a forcément une raison d'être. Mais ce que je leur dis aux entreprises, vous savez pourquoi vous faites du business. Et il y a forcément, après, faut chercher peut-être la part responsable dans ce business. Mais au fond, on a toujours une part. Alors vraiment, il faudrait avoir un mauvais fond pour chercher à faire du business pur. Mais finalement, on cherche quand même à répondre à un besoin, à une demande.
Mais le mettre en mots, c'est pas forcément pareil. Oui. Et puis, la raison d'être, avant de la définir, il faut, tu sais probablement qu'il faut réunir toutes les parties prenantes de l'entreprise process de définition.
C'est ça le plus long.
Donc, voilà, exactement. Donc, en 2020, 50% des entreprises. En 2021, 85% des entreprises du CAC 40 se sont définies une raison d'être. C'est assez important, ce qui prouve qu'il y a une véritable tendance que non seulement les chefs d'entreprise, mais aussi tous les membres, tous les acteurs de ces entreprises, que ce soit les salariés ou toutes les composantes de l'entreprise, se sentent mobilisés autour de ces sujets-là. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans les exemples qu'on a pu développer dans l'Observatoire, c'est qu'on constate que chaque entreprise qui s'est définie une raison d'être, par exemple Engie, moi c'est une société que je connais bien, ou bien Atos ou d'autres, se sont définis une raison d'être qui leur correspond vraiment. Par exemple, Atos, ils ont une vraie dimension numérique autour, évidemment, de l'informatique. Engie s'est axé sur cette dimension d'énergie renouvelable, développer les énergies de façon à ce que toutes les populations en bénéficient. Donc, chacune doit trouver et poser les mots sur cette raison d'être en interrogeant l'ensemble des composantes de son entreprise.
Et puis surtout, après, continuer à agir ce sens. Parce que ça qui est important, c'est que c'est toutes les actions de l'entreprise puissent être drivées par cette raison d'être.
Exactement. C'est un premier pas, c'est d'abord de le poser, de le mettre en mots, et ensuite, évidemment, d'en décliner soit un plan d'action, soit des actions concrètes. Chacune y met ce qu'elle souhaite, évidemment.
Écoute, c'était passionnant. Merci Gaïa.
C'était un plaisir.
Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur toutes les plateformes de podcast ainsi que chaque semaine sur thegood.fr. N'hésitez pas à liker, partager et commenter le podcast. À très vite.